mardi et mercredi prochain. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez Emmanuel Bastide et ses 8 milliards de voisins sur RFI.
La clé des ondes.
Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir?
La radio qui se mouille pour qu'il fasse beau.
Non.
André Roche, bonsoir.
Bonsoir.
Dans votre livre « Paresse, histoire d'un péché capital », on s'aperçoit que cette paresse a traversé notre histoire en ayant une place importante, controversée, mais toujours avec le même, pourrait-on dire, travers. C'est l'histoire originelle, c'est-à-dire c'est un péché.
Alors effectivement, on l'a décrit comme un péché. Un péché qui, à un moment donné, s'appelle assédie et qui, en fait, comprend deux grands tourments. Premier, c'est que l'assédiaque est quelqu'un qui, à un moment donné, ne veut plus prier, ne veut plus contempler Dieu. Autrement dit, il abandonne sa foi, mais par ailleurs, c'est aussi quelqu'un qui souffre de cette situation. Autrement dit, il y a cette ambiguïté de l'abandon de la valeur qu'est ici la divinité et par ailleurs la souffrance intérieure qui est ici une sorte de vide de l'âme qui est présentée par Évagre le Pontique au début du christianisme, c'est-à-dire au début du 4e, 5e siècle. Alors ensuite, il y a une évolution, c'est-à-dire que on ne va pas rester dans la contemplation. Au moment en particulier lorsque Martin Luther, au XVIe siècle, fait ses premières critiques, ce qu'il va dévaloriser, c'est précisément la contemplation du moine, c'est-à-dire de quelqu'un qui, entre guillemets, ne fait rien. Et il va valoriser, en revanche, le travail, c'est-à-dire ce qui va permettre aux chrétiens, en quelque sorte, de gagner son salut.
Alors, tire au flanc, fainéant, indolent, négligent, branleur, neurasthénique, flemmard, oisif, assédie, vous l'avez dit, incurie, maladie mentale, dépression, vice, faute, carence, paresse, c'est l'oreiller du diable, j'aime bien la formule, offense vis-à-vis de Dieu, absence de civisme pour le siècle des Lumières ensuite, servitude, glandeur, j'en foutre, je m'en foutisme, on ne peut pas dire que les qualificatifs soient positifs.
Vous avez tout à fait raison. Je ferai deux remarques. La première, cette façon de qualifier le paresseux, elle vient de qui ? De celui qui tient en son pouvoir une autre personne. Autrement dit, en stigmatisant la paresse avec tous les vices que vous venez d'évoquer, eh bien, celui qui parle se met dans une position de domination. D'une certaine manière, il s'est approprié ce personnage qui tout à coup se montre indocile. La deuxième remarque, c'est que il y a aussi tout un pan de la paresse qui est positif. Je pense en particulier aux travaux de Paul Lafargue lorsque il invoque la paresse précisément pour créer une tension entre celui qui est qualifié de subordonné et celui qui le domine. Il y a aussi cet avènement à la fin du 19e et au début du 20e de ce qu'on appellera les loisirs. Et dans le loisir, il y a une paresse autorisée, une paresse qui d'une certaine manière est le fruit du travail, non seulement qui permet de retrouver son énergie, mais qui va aussi être en quelque sorte la récompense de ce
oui,
que l'on a fait.
Tout à fait.
Ce sont ces aspects-là qu'il faut peut-être rappeler pour évoquer le fait que, entre guillemets, celui que nous avons qualifié de paresseux, à partir du moment où il reconquiert sa liberté, c'est-à-dire qu'il se libère de celui qui le maltraite, en l'appelant paresseux, feignant, indolent, etc., etc., c'est une conquête. C'est la mère des vertus. C'est la mère de la liberté.
On verra ça, oui, que c'est une conquête révolutionnaire qui apparaît pleinement au XIXe siècle. Mais on reviendra sur cet aspect des choses. Il y a quelque chose quand même qui est contradictoire, parce que au départ, Adam et Ève, si l'on en croit la légende, étaient dans le paradis, et en fait, ils ne faisaient rien, quoi. Alors, quand ils ont découvert la pomme et le serpent, ils ont été en sanction, chassés de ce paradis terrestre, pour être obligés de travailler. Alors, comment se fait-il que ce qui apparaît comme une sanction, le travail, devienne une qualité, alors que la paresse, qui était le paradis, devienne un défaut?
Premièrement, ce qui advient à Adam et Ève, dans la légende, ou on peut dire aussi dans la mythologie, ce qui leur advient, c'est qu'ils perdent l'éternité. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? L'éternité, c'est hors du temps. C'est pas la perpétuité. La perpétuité, ça veut dire que le temps s'arrête pas. Mais là, dans l'éternité, on est hors du temps. Or, précisément, en étant chassés du paradis, ils entrent dans le temps. Et le temps, c'est ce que nous avons de plus précieux, en ce sens que c'est ce temps que nous allons occuper. Et le paresseux, c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de son temps, qui ne sait pas ou qui ne veut pas se servir de son temps, qui le laisse traîner, qui, d'une certaine manière, est dans l'atermoiement. Alors, de ce point de vue, le plus beau texte que j'ai vu, c'est celui de Gontcharov, qui s'appelle Oblomov, qui paraît en 1859 en russe. Et qu'est-ce qui advient à Oblomov? Oblomov, il a peur qu'à un moment donné, quelque chose advienne. Autrement dit, il voudrait que tout reste en l'état, que rien ne change. Éventuellement même, il voudrait ne pas aimer parce que aimer, ça suppose qu'on occupe son temps. En ce sens, pour répondre à votre question, l'avènement de l'histoire, c'est l'avènement du temps, de la temporalité. Et toute cette histoire de la paresse, elle est précisément dans la question du rapport de l'individu, de l'humain, avec son temps.
Oui, mais à Oblomov s'oppose Barthélemy, qui lui est aussi un paresseux, mais on s'aperçoit qu'il y a déjà, ça commence à avoir une revendication sociale, c'est il est paresseux parce que c'est un rebut de la société.
Alors vous avez raison, le problème d'Oblomov, c'est le fait qu'autour de lui, la société industrielle qui vient de l'Occident est en train de s'installer. Et il n'en veut pas, il refuse ceci. Autrement dit, c'est un nostalgique. Marc Lévy, c'est pas tout à fait la même chose. Au contraire, là, il s'agit de réagir. Il s'agit de montrer à quel point la société est menacée par d'autres problèmes que celui que Oblomov, disons, par d'autres solutions que celles que préconise Oblomov.
Alors, on va faire un saut dans le temps et on arrive aux Lumières. Découverte de nouveaux mondes, de nouvelles civilisations. Et on peut dire que les philosophes ou les penseurs du siècle des Lumières étaient un peu le cul entre deux chaises, à la fois ce côté les sauvages, libres, en dehors de contraintes, et puis la nécessité de devoir travailler pour s'intégrer dans une société qui remet en cause l'aristocrate, qui est un gros feignant en fait.
Alors effectivement, vous mettez le doigt sur la plaie, cher ami. La question que pose au siècle des Lumières, en particulier Rousseau ou Montesquieu, c'est la suivante, à savoir que pour Rousseau, d'une certaine façon, c'est assez simple. L'homme, avant d'entrer en société, il ne fait rien. Autrement dit, il végète il ne se préoccupe absolument pas d'un lendemain éventuel. Une fois qu'il est en société, d'une certaine manière, il doit sa citoyenneté. Autrement dit, c'est le travail qui va lui permettre de, entre guillemets, alors c'est pas un mot de Rousseau, c'est moi qui le dis, qui va permettre de rembourser ce que la société lui a donné. Et le siècle des Lumières va précisément sortir de ce qui est de l'ordre du religieux, de l'ordre de la morale, pour installer le concept politique qu'est ici la paresse, à savoir que le paresseux, d'une certaine manière, puisqu'il ne paye pas à la société ce qu'elle lui apporte, eh bien, il est un délinquant. C'est quelqu'un qui commet un délit. On est dans une réflexion politique, là où précédemment on était dans une réflexion religieuse, moral, on peut s'arrêter à ces deux qualificatifs.
Alors, on s'aperçoit, ce que je disais dans la première question, c'est que toutes les évolutions de la société abordent ce thème de la paresse. Alors c'est normal puisque vous avez écrit un livre sur la paresse, mais enfin, ça se retrouve quand même objectivement. Et parce qu'on s'aperçoit par exemple que l'arrivée de la psychanalyse s'empare de la paresse parce que ça devient une maladie. Donc on s'aperçoit que toutes les évolutions de notre société s'emparent de ce thème de la paresse.
Alors vous avez raison. La nouveauté qu'introduisent les psychanalystes, les psychiatres ou les psychologues, etc., la nouveauté, c'est la suivante. Jusqu'ici, le paresseux, c'est quelqu'un qui doit aller en enfer ou c'est quelqu'un qui devient un délinquant et donc il faut le punir. Eux nous disent, non, c'est pas de cet ordre-là, c'est de l'ordre de la maladie. Il faut pas le punir, il faut le soigner. Donc ça, c'est un bouleversement très profond à ce sujet.
Mais dans tous les cas, quand même, c'est la stigmatisation de la paresse, d'une façon ou d'une autre. Parce que quand on est malade, c'est qu'on n'est pas totalement maître de soi, conscient, et on s'adonne à la paresse, parce que c'est une maladie, quoi, en quelque sorte. Donc c'est toujours stigmatisé.
Oui, bien sûr, mais... La différence, c'est que de la punition, il ne sortira rien. Tandis que des soins que l'on applique aux malades, il y a l'espoir de guérir. Alors, je réponds par ailleurs à votre deuxième question. Vous me dites, la paresse est toujours stigmatisée. Bon, c'est vrai que dans la littérature, ça occupe beaucoup de place. Il n'empêche que Paul Lafargue, ça existe. Raoul Jeuningen, ça existe. L'aventure hippie, ça s'est produit. La peinture impressionniste, qui en ce moment est à Orsay, avec Manet, Monet ou Courbet, ça existe. Donc, si on réunit tous ces témoignages, en quelque sorte, qui donnent à la paresse un autre nom que celui du vice ou de la faute ou du péché ou de la délinquance. Si on la qualifie en disant que c'est un moment de récupération, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de gratification, c'est un moment de loisir, c'est un moment où on peut s'inventer soi-même, ça change complètement le regard, voyez-vous. Dans un contexte qui aujourd'hui est tout de même relativement pessimiste dans la société française contemporaine, on a du mal à croire à ces qualifications plus élogieuses du fait de ne pas travailler et d'avoir une autre occupation que celle qui est un devoir. Le travail salarié, c'est une chose, mais il peut y avoir un travail qui, lui, n'est pas fait pour gagner un salaire, mais qui est fait pour la réalisation de l'individu.
C'est ça. Alors, c'est l'arrivée peut-être du travail omniprésent et triomphant de la révolution industrielle qui a tout envahi, notamment avec l'arrivée et la montée en puissance du salariat, qui fait que certains penseurs ont dit, mais finalement, la paresse a des côtés positifs, révolutionnaires, d'existence. Alors, Nietzsche a été peut-être... important dans cette bascule, vous avez dit Lafargue, c'est-à-dire que on change un peu de registre et on s'aperçoit que vive la paresse, et il y a même certaines personnes qui disent il faut apprendre à être paresseux parce que c'est pas évident.
Alors, je répondrai sur trois points. Le premier, chez Paul Lafargue, il y a d'abord une critique des droits de l'homme. Pour lui, dans les droits de l'homme, il n'y a pas inscrit ce droit à la paresse. Donc ça, c'est une première observation qu'il fait. La deuxième observation, c'est que petit à petit, le travail, et en particulier le travail salarié, a créé une sorte de culte, de passion de travailler pour gagner plus d'argent. En l'occurrence, c'est travailler plus pour gagner plus.
Hein. Et consommer plus.
Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce culte contre lequel Paul Lafargue nous mobilise. Et puis enfin, chez Paul Lafargue, il n'y a pas l'idée que ceux qui ne travaillent pas, autrement dit qui vivent de leur rente et de leur patrimoine, se mettent à travailler. C'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est de faire en sorte que on puisse démocratiser la paresse. Autrement dit, démocratiser le temps libre. Ça, c'est important pour lui. Maintenant, il y a une deuxième chose que vous soulignez avec avec pertinence, et qui est que il faut apprendre à ne rien faire. Il faut apprendre à goûter la paresse en tant que affinité, quelque chose qu'on peut aimer. Cette remarque qui vient de Raoul Vaneghem, elle est fondée sur quoi? C'est que l'ensemble de notre vie scolaire, l'ensemble de notre système éducatif, il est orienté vers quel travail je vais faire plus tard. Autrement dit, il est essentiellement question d'apprendre à travailler. Or, face à cette montée en puissance de la recherche, de la profession, du métier que l'on va exercer, etc., eh bien, le fait de dire « mais oui, mais il faudrait peut-être aussi apprendre à apparaître » est quelque chose qui est à la fois révolutionnaire et extrêmement difficile, parce que le mouvement ne va pas dans ce sens-là. Je voudrais ajouter une chose que j'avais étudiée à un moment donné, c'est qu'on dit « les loisirs » pour l'ensemble du peuple français, et en particulier des salariés, c'est 1936 et les grands départs. C'est pas vrai, ils sont pas partis en 1936. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que les vacances, le loisir, ça se programme. Parce que il faut apprendre à utiliser un guide, il faut apprendre à utiliser, etc. Or, ça fait pas partie de la culture ouvrière de ces années-là. Donc, en ce sens, il y a ici tout un apprentissage à concevoir, et comme vous l'avez souligné il y a quelques instants, le fait d'apprendre aux gens à consommer n'est pas peut-être l'ensemble de ce que exige aujourd'hui l'apprentissage de la paresse.
En fait, ce mot cache, ça sera ma dernière question, c'est le sommet de l'iceberg, parce que en fait, ce qu'il faut mettre à l'honneur et en valeur, c'est ce que permet de faire la paresse.
Tout à fait, tout à fait. C'est ce que permet de faire la paresse. Mais attention, nos loisirs aujourd'hui sont des loisirs où il faut absolument faire quelque chose. Quelqu'un qui revient de vacances et qui dit « bon, non, je me suis reposé », ben on se demande à quoi bon lui donner des vacances. Donc, dans cette idéologie d'activer, de faire en sorte que les gens fassent quelque chose, entre guillemets, consomment, eh bien, il y a aussi une réaction qui est que apprendre à chacun d'entre nous à s'occuper soi-même, à savoir ce qu'il aime, à savoir ce dont il a le désir, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans la société de consommation, qui n'est pas essentiel. Dans la société de consommation, la seule chose qu'on dise, c'est voilà le produit, vous pouvez l'acheter. Or, précisément, l'apprentissage de la paresse, au sens positif du terme, autrement dit, à l'inverse de ce que nous disions tout à l'heure, c'est le moment, les moments où peut-être même cette persistance du sujet à savoir, à se demander, à chercher ce que profondément il a le désir de faire ou de ne pas faire.
Écoutez, André Roche, merci, on pourrait continuer longtemps. Je vais vous lire une des citations que vous avez inscrites dans votre livre, « Paresse, histoire d'un péché capital ». D'ailleurs, tout est résumé dans ce titre. « Il y aurait un livre à faire sur la paresse. Cet ouvrage ne pourrait être écrit que par un paresseux. Mais les paresseux sont bien trop occupés à se tourner les pouces. Alors, est-ce que ça n'a pas été trop difficile d'arrêter de vous tourner les pouces ?»
Alors, je voudrais rendre à Gustave-Henri Josseau cette citation que j'ai trouvée lors d'une exposition qui lui était consacrée, donc l'Évangile de la paresse. En ce qui me concerne, c'est vrai que c'est un effort, c'est vrai que ça suppose que d'un jour à l'autre, on allonge les lignes, les pages et les chapitres, mais c'est quelque chose qui, pour moi, était d'une certaine façon une réalisation de ce que je pensais, de ce que je voulais montrer et de ce que je voulais me montrer à moi-même. Merci de m'avoir interpellé sur le sujet.
En tout cas, on peut se tourner les pouces en lisant votre livre et en ayant beaucoup de plaisir. Merci, bonsoir, bonne soirée.
À vous de même, bonne soirée.
A Benzarie de coup de fa, pouler des cannes sous sa mia.
Faire bouleguer les fadas en parlant du vin et des filles.
Ah, hélas, le monde est en tourba.
Qu'est-ce pas l'outin des pantalla.
Quand tout tourne en kicharia.
En un clin d'œil sur ta télé, tu pourras compter sans bordille.
Ouais. C'est Marilas qui est un mestier, c'est de tourner sous la porrilla.
A découvert ou déguisé.
Les dames sont toujours déguisées.
Pour te tromper, ils se maquillent.
Collègue, tu folles incapaces, un coup mesquino d'une lesbille.
Y'en a partout, je te mens pas, c'est pire que la taxifolie.
T'es d'une l'église et d'une l'estat.
La presse et l'université.
Et d'un l'héros d'une ta famille.
Ces salons ne font que tricher pour mieux récupérer leur bille.
Et politique, elle est yédrée, et mais il semble une comédie.
Ils masquent la réalité,
imposent leur vérité.
Toujours fuyant comme l'anguille.
Pour faire sauver les tchugas, t'expliqueras tout per maquille.
Mais leur savoir est plus étroit encore que le chat d'une aiguille.
Soumis sa ligne, faut qu'il t'aisa.
Si pas la rienne aille des trouvas.
C'est sans prévient ni courtésie.
Ils nous feraient bien rigoler s'ils ne faisaient que des broutilles.
Moi, si pareil, sont pour l'idée d'un des saintines qu'à la caville.
Ils nous empêchent de penser.
Ils seraient prêts à jouer les bouchers.
De peur que la secte vacille.
Pauvre de nous, peuple si faible, mais où est donc passée la plèbe? N'y a-t-il plus que des bourgeois et qui désirent tout ce qu'ils voient? Y'en a plein qui achètent un moulon de six caves, des obligations et des actions à Paris-Bas. Un lingot de cachet tout au fond de la cave, des Napoléons et puis encore je ne sais quoi. On rêve tous de cabriolets et de Mercedes, et de posséder une belle et grande villa, pleine de champagne et de superbes gonzesses, habillées par Chanel, Dior et puis Chantal Thomas. Pleine de seins, pleine de fesses, et qui ressemble à Pamela. On voudrait tous être Bill Gates et Bill Clinton et Monica. Quand vient le samedi, à tous les coups, c'est la grand-messe. De la consommation au supermarché de son choix. On fait des achats, mais quand on arrive à la caisse, malheureusement, on fait souvent des chèques en bois. Les riches sans vergogne augmentent leur richesse. Toi, pauvre couillon, tu ne t'en aperçois pas. Les politiciens sont à l'aise pour magouiller à tour de bras. Et c'est toujours le plus balèze qui, du faible, brise les doigts.
quelqu'un est fatigué. Est-ce que quelqu'un est fatigué de faire tourner la machine, de faire tourner la machine. Taper sur un clavier, taper toute la journée pour faire tourner la machine, pour faire tourner la machine. Toujours courir, toujours presser. Est-ce que quelqu'un est fatigué? Courir après la machine, courir après la machine. Plus lentement s'il faut mourir. Laissez rouiller la machine, laissez rouiller la machine. Est-ce que quelqu'un voudrait ralentir, partir en roue libre, s'affranchir de la machine, de la machine. Est-ce que quelqu'un est fatigué? Est-ce que quelqu'un est fatigué de faire tourner la machine, de faire tourner la machine. Est-ce que quelqu'un est fatigué? Est-ce que quelqu'un est fatigué de faire tourner la machine, de faire tourner la machine. Ton pays est un hôtel, à quoi mourir pour ça? Une carte postale couleur pastel. Faudrait tourner le remake de ta vie, tu ne crois pas. De trouver un rôle à Oscar, c'est ça. Est-ce que quelqu'un est fatigué? Est-ce que quelqu'un est fatigué de faire tourner la machine, de faire tourner la machine, de taper sur un clavier la journée pour faire tourner la machine, pour faire tourner la machine. Est-ce que quelqu'un voudrait faire machine arrière avec moi, avec moi?
La clé des ondes, rediffusion.
Lydie Salvert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivaine avec une douzaine de romans à votre actif, comme on dit dans les entreprises, avec entre autres le prix Goncourt 2014 pour votre livre « Pas pleurer ». Mais c'est votre dernier ouvrage qui nous intéresse plus particulièrement ici à la clé des ondes, dans notre émission « Le travail en question », puisqu'il s'agit de « Depuis toujours, nous aimons les dimanches » paru au Seuil. Alors le moins qu'on puisse dire, Lydie Salvert, c'est que vous n'allez pas avec le dos de la cuillère pour dégommer le travail.
Mais écoutez, je suis amoureuse des écrits satiriques qui m'enchantent depuis le 17e jusqu'à nos jours. Et j'ai eu envie d'écrire sur le mode un peu de la satire pour dire, à la fois pour faire l'éloge de la paresse, mais la paresse comme questionnante de la question du travail. Voilà, je me suis saisie de la paresse pour reconsidérer le travail, pour le remettre en cause. voilà la démarche, plus ou moins.
Alors, vous avez, on va faire un constat en premier, c'est que, paradoxalement, il y a un certain nombre d'écrits qui sortent de recherches qui disent pas forcément du bien du travail, et il y a un certain nombre de personnes qui ont mal au travail, de jeunes qui renâclent un peu à entrer dans la vie active, et pourtant, cette valeur travail est toujours dominante.
C'est extraordinaire, l'abîme qu'il y a entre les témoignages sur le mal-travail, les recherches en tout genre sur le travail et la surdité ou le déni total de ceux qui ont les rênes du pouvoir. C'est extraordinaire. C'est probablement qu'ils ont intérêt à ce que les travailleurs continuent à croire que le travail est bienfaisant, que le travail est épanouissant, parce que, au fond, c'est à eux que ça rapporte, pour le dire brièvement.
Alors, vous les appelez ceux qui sont un petit peu aux manettes. On verra tout à l'heure comment ceux qui subissent sont parfois complices. Vous les appelez les apologistes du travail des autres.
Absolument. C'est Bertrand Russell qui disait que c'était les classes bourgeoises et aisées qui faisaient l'apologiste du travail des autres parce qu'elles avaient du mal à concevoir que les travailleurs aient les mêmes loisirs qu'elles, disait-il, et elles ne pouvaient considérer que les travailleurs désœuvrés devaient fatalement, je ne sais pas si ma phrase est en français, devaient fatalement basculer dans l'ivrognerie et la déchéance la plus basse. C'est une chose qu'on retrouve chez Zola, par exemple, curieusement, dans L'Assommoir, son ouvrier qui s'appelle Coupeau, je crois, a chuté d'un toit en travaillant, et fatalement, hein, puisqu'un travailleur qui ne travaille pas est dangereux, fatalement, il va sombrer dans l'ivrognerie la plus abjecte.
Oui, Russell, qui a écrit donc l'éloge de l'oisiveté. Alors, vous faites des énumérations, vous jouez avec les mots, et vous prenez beaucoup de plaisir, succession de mots sur tout au long de votre livre. Essayez de refaire ça à l'oral, en me disant tout le mal que vous pensez du travail, pourquoi le travail, vous ne l'aimez pas?
Je ne sais pas si je vais y arriver comme quand j'écris. Mais est-ce que je peux encore reprendre Bertrand Russell, qui a quand même une définition du travail formidable? Il dit, il y a deux sortes de travail. Le travail qui consiste à transformer la matière et le travail qui consiste à faire travailler les autres sur la matière. Et une troisième catégorie, rajoute-t-il, ce sont les grands industriels qui profitent et des uns et des autres en faisant croire que le travail, nanana. Donc, alors mes reproches contre le travail, eh ben, c'est qu'il, pour avoir eu un père maçon, c'est qu'il fatigue, c'est qu'il... pire que ça, il y a des travaux qui ont été faits qui montrent que dans les régions où il y a une quantité de grand nombre de travailleurs, de travaux pénibles et non reconnus votent systématiquement Rassemblement national. Vous voyez la conséquence aussi de cette non-reconnaissance et de cette pénibilité du travail qui n'est pas reconnue. Ça conduit à ça. Ça conduit à une perte aussi. D'autres travaux ont été faits, de l'engagement citoyen, par exemple. Ça conduit tout simplement à annuler toute capacité à penser, à rêver, à désirer, etc. Quand on est très fatigué, quand on fait un travail répétitif et morne, notre capacité à penser en souffre, évidemment.
Ce qu'on peut dire, c'est que comment on peut se poser la question, comment peut-on devenir citoyen quand on est dans l'essentiel de notre vie, dans un rapport de subordination?
Exactement, exactement. Et ce qui apparaît, c'est que le management post-taylorique est toujours aussi vertical, à quelques exceptions près, que les décisions sont prises par des consultants qui sont extérieurs à l'entreprise et qui vous balancent une décision qui tombe du ciel et à laquelle vous devez vous plier. Bref, que le travail, que la digitalisation, au lieu qu'elle... On s'est rendu compte qu'au lieu d'alléger le travail, créer de nouvelles tâches, et comme les logiciels changent, il faut se réadapter aux nouveaux logiciels, c'est difficile. Et puis surtout, et c'est Dominique Méda qui le dit, la répartition du travail est désastreuse. Il y a ceux qui travaillent énormément et les chômeurs. Alors que, dit-elle, si on arrivait à une répartition égalitaire du travail, tout le monde s'en tirerait avec quelques heures par jour. Mais c'est sur le plan idéologique que ça coince. C'est ça le problème.
Et le pire, c'est que l'identité sociale des individus, des citoyens, passe par le travail. Première question, quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce que vous faites ?
Bien sûr. Oui. Le travail est devenu le pivot de notre système, ce qui nous constitue comme sujet. Alors que dans les sociétés pré-industrielles, ça je l'ai dit plusieurs fois, on travaillait pour subvenir à ses besoins, rien que de normal à cela. Aujourd'hui, bascule monstrueuse, on travaille pour créer des besoins, non pas pour les assouvir, pour en créer. Et de nouveau dans une course à la nouveauté, à l'abondance et au profit insensé. C'est ça qui est grave. Et c'est des besoins qui, disait Valérie, qui ne trouvent pas leur racine dans notre physiologie intime, mais qui sont absolument suscités, provoqués par des excitations sensorielles, psychologiques, etc. Et nous sommes dupes, mais tous, plus ou moins, de cette propagande sournoise.
Mais c'est ça, c'est le carburant de ce moteur travail, c'est ces besoins factices qui sont créés par la propagande, la publicité, quoi, en gros. Hein.
Absolument. Oui. Et qui n'ont aucune limite. Puisqu'il faut toujours produire plus pour avoir plus de profits, plus de bénéfices, etc. Et je ne sais pas si vous avez vu la manchette du Monde il y a 3-4 jours, je crois, les hausses des profits considérables du CAC 40 et des actionnaires. C'était un gros titre du Monde il y a 3 ou 4 jours. Et pendant ce temps, la femme de ménage de l'hôtel où je suis touche 1180 euros par mois. Il y a là quelque chose qui ne peut pas durer. Et cette inégalité est monstrueuse. Et sans compter que cette surproduction abîme notre planète, on le sait.
Oui, c'est ça. C'est cette augmentation de la production a des conséquences, bon, sur les êtres humains, mais aussi sur la planète.
Bien sûr. J'ai appris que les usines de textiles au Bangladesh faisaient travailler des enfants, d'abord, nous expédiaient des vêtements bon marché, que nous mettions un ou deux jours, et qui allaient rejoindre des décharges gigantesques d'habits portés deux fois, et qui polluent, et qui font du mal, etc. Mais on pourrait citer 1000 exemples de cet ordre.
Alors vous vous doutez peut-être que je vais vous poser la question se pose pour les apologistes du travail et leurs complices. Comment on peut vivre sans travailler ?
Mais il ne s'agit pas de vivre sans activité. Moi je n'ai jamais dit ça. De tout temps les hommes ont été actifs, créatifs et ont subvenu plus ou moins bien à leurs besoins. Il y a une grande différence entre faire ce genre d'activité pour subvenir à ses besoins et produire de façon monstrueuse, intense, à seule fin de faire gagner du fric à quelques-uns. C'est Keynes,
l'économiste.
L'économiste libéral, attention,
oui, oui.
Libéral, qui avait fait des calculs savants où il disait que vu l'état de la technologie et l'abondance des matières, les hommes pouvaient s'en tirer en travaillant 3 heures par jour. Il disait ça dans les années 1930, je crois. Keynes, libéral. Mais on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas, on ne peut pas, on est dans le déni le plus absolu de ce qui, pourtant, devrait nous modifier notre rapport au monde, au travail, aux autres, du coup, bref.
C'est quand même la recherche du profit à tout prix et sans limite qui, quand même, est aussi un autre carburant.
Mais est-ce que c'est le vôtre ? Est-ce que c'est le mien ? Amasser des profits considérables n'est pas de votre fait, que je sache, plus ou moins, ni du mien.
On ne va pas demander mon avis. Hein.
Ce sont les multinationales qui sont pleines aux as. Bien sûr, ça n'est pas nous. Connais chacun, qu'on soit tenté par le désir d'amasser un petit peu, d'être à l'aise, etc. Ça, c'est une dimension humaine, on fait avec elle. Mais il y a une différence entre ça et capitaliser des milliards sur le dos des autres.
Alors, ce qui est savoureux aussi dans votre livre, nous, depuis toujours, nous aimons les dimanches, paru au Seuil, c'est toutes les définitions que vous donnez au mot paresse. Parce que bon, la plupart des gens disent bon, paresse, et puis voilà, c'est des fainéants, puis terminé. Alors vous, les définitions et les atouts de la paresse sont multiples et presque infinis.
Oui, donc la paresse devient condamnable à partir du moment où le travail est porté au nu. Hein, et de cette époque datent les défenseurs de la paresse, que sont les poètes. C'est au moment même, milieu du 18e, 19e, au moment même où le travail à tout prix est porté au nu, que les penseurs et les poètes vont faire, eux, l'éloge de la paresse comme contestation du travail. Et donc, Baudelaire, Rimbaud, Théophile Gautier, et comme écrivain, Stevenson, Melville, Goncharov, et comme essayiste et philosophe, Russell, bien sûr, qu'on a cité, Nietzsche, qui dit que le travail est la meilleure des polices, dans Aurore, hein, il dit ça. Hein. Il dit que tant que les gens sont tenus à un travail qui les tient bien, ils sont sages et la sécurité est assurée.
Je vais vous lire parce que c'est pas seulement la paresse, c'est pas seulement contester l'ordre établi, c'est aussi, je vous lis, car vous l'avez compris, la paresse est un art. La paresse n'est pas une mollasserie poisseuse, n'est pas intoxication cannabique, n'est pas délectation morose, n'est pas léthargie post-prandiale, n'est pas neurasthénie chronique, n'est pas détachement veule, n'est pas dédain romantique, n'est pas morne prostration, n'est pas je m'en foutisme mufle, n'est pas indolence blasée, n'est pas dandysme là, n'est pas ce que communément on appelle glande ou glandouille ou flemme ou flémingite ou feignardise ou feignasserie, ou lequel souvent enfin de la confondre. La paresse est un art subtil, discret et bienfaisant, une manière heureuse et chérie des poètes de résister au mandement que le monde marchand nous inflige avec son ventre énorme et ses dents carnassières, un instrument de charme et de voluptué calme, une musique douce. Alors je parlais de votre plaisir d'utiliser les mots, on s'en rencontre, là c'est vraiment une déclaration d'amour pour la paresse.
Mais oui, que d'autres ont fait bien avant moi. Et je cite La Rochefoucauld dans le livre, je crois, qui disait que la paresse incline aux vertus paisible. Il disait la paresse de se battre vous rend clément, la paresse de mentir vous rend sincère, la paresse chez votre amant le fait calme et voluptueux, la paresse des manières vous donne un charme extraordinaire, etc. Et il disait, j'ai trouvé ça très joli, il faut très peu d'efforts aux paresseux pour être bon. J'ai trouvé ça très drôle et très joli.
Et ça évite de...
Et la paresse d'intriguer pour réussir vous fait honnête aussi, pour en revenir au travail.
Et puis la possibilité d'éviter de faire des bêtises, comme la guerre.
Par exemple.
Si on réfléchit un peu avant.
Absolument.
Alors, vous faites un constat aussi qui est, en reprenant Lafargue, le célèbre droit à la paresse, vous dites « Les puissants peuvent dire merci aux bons pauvres dressés depuis leur enfance à adresser des merci à ceux qui les soumettent ». C'est un constat un petit peu désespérant, non ?
C'est celui que fait Paul Lafargue, effectivement. Il dit que les travailleurs se font complices de leur maître en acceptant les règles qu'il leur donne. C'est ce qui a déplu à l'époque, évidemment, et qui a déplu à Marx, entre autres, puisque c'était le gendre de Marx. Oui, il dit que les ouvriers, souvent, reprennent à leur compte cette valeur travail qu'on leur a inculquée, que leur ont inculqué les apologistes du travail des autres. Et ça le désole, évidemment. Alors que faire pour les...
Et quand vous voyez que les partis de gauche, presque tous d'ailleurs, sont vent debout contre la paresse et mythifient le travail de manière incroyable.
Je sais bien. Historiquement, oui, il y a ça depuis le début. Mais c'est vrai qu'au début, au tout début, le travail a pu paraître comme émancipateur en vous rendant autonome par un salaire. On a pu croire au début que le travail serait émancipateur. Mais pas dans les conditions dans lesquelles il est réalisé la plupart du temps, évidemment. Mais c'est vrai que c'est très difficile aux gens de gauche de faire valoir cet argument, que la valeur travail est contestable. C'est très difficile. Oui.
Ouais, parce qu'on dit le travail est mauvais, mais dans le système capitaliste, quoi. Dans un autre système, ça sera nettement mieux.
Oui, je crois que c'est ça leur argument. Oui.
Donc, face à l'énergie que vous dépensez pour parler du travail et de la paresse, je vais vous conseiller de vous descansar.
Oh oui, bien sûr.
C'est un joli mot espagnol qui veut dire se reposer.
Oui. Absolument. Oui.
Et c'est vrai que, en l'entendant, ben on a envie de...
de mettre de se rouler les pouces,
oui.
De s'allonger, de somnoler.
Lydie Salvert, je vous remercie.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Depuis toujours nous aimons les dimanches », paru au Seuil.
Merci beaucoup, au revoir.
Dans des caves soi-disant mal fréquentées, bloqué dans une enclave que tout le monde appelait cité. Passé des nuits blanches à faire le tour de la question, on s'est retroussé les manches, on est reparti au charbon. On y est allé dans les tranchées, fleurs au fusil comme en 14. On s'en est pris plein la tronche en défendant nos justes causes. Créer un ministère, celui des poètes enragés, enjamber des barrières sans jamais tomber dans le fossé. Évitant les facilités, les caricatures, les discours accrédités, les bienveillantes autocensures dans nos villes, dans nos campagnes, sûrement pas pour nous seuls. Déplacer des montagnes sans jamais fermer nos grandes gueules.
C'est à nous de jouer maintenant.
It's time for us.
À nous de jouer maintenant. Est-ce que t'entends?
Stop with all the sheets on the radio. Stop with all the sheets on the radio.
C'est à nous de jouer maintenant.
It's time for us.
À nous de jouer maintenant. Est-ce que t'entends?
Stop with all the sheets on the radio. Stop with all the sheets on the radio.
Avec nos dégaines de rappeurs, ils nous regardaient de haut. Notre argot et nos couleurs donnaient pas cher de notre peau. Ils ne s'arrêtaient qu'aux apparences et leur regard était faussé. Nous n'entrions pas dans leur case, leur repère était dépassé. Scénar écrit d'avance, il faut croire que c'est drôle. Le
méchant de service. Il pensait à nous pour ce rôle, on n'était pas donné gagnant. Sur la ligne de départ, au dos le dossard des perdants, la côte estampillée au quart. Et nous voilà 20 ans plus tard, fidèles à nous-mêmes, ni au mitard, ni au placard, mais bien au centre de l'arène. Toujours les mêmes lascars, les mêmes rappeurs de quartier, assez naïfs pour croire qu'une chanson peut tout changer.
C'est à nous de jouer maintenant, it's time for us. À nous de jouer maintenant, est-ce que t'entends?
Stop with all the shit on the radio. Stop with all the shit on the radio.
C'est à nous de jouer maintenant,
it's time for us.
À